7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, les lycées français de l'étranger, à l'occasion des 25 ans de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est l'un des plus grands réseaux d'écoles et de lycées dans le monde. Ils accueillent plus de 320 000 élèves de la maternelle à la terminale aux quatre coins de la planète, dont près d'un tiers en Afrique. En moyenne, la majorité des enfants inscrits n'a pas de passeport français. Ces établissements subventionnés par l'État français, d'ailleurs, sont un gage de qualité, mais c'est vrai aussi, les frais de scolarité sont en augmentation ces dernières années, pas forcément partout, mais la question mérite d'être posée, à qui s'adressent ces établissements pour remplir quelle mission face à la concurrence aussi des écoles internationales, notamment anglo-saxonnes. Nous allons en parler avec nos invités. Noël Delhomme, proviseur du lycée français Blaise Pascal d'Abidjan. Bonjour Noël Delhomme.
Bonjour.
Vous arrivez, vous sortez de l'avion d'Abidjan. Voilà. Bernard Pujol, proviseur du lycée français de Singapour. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes là à l'occasion donc de l'anniversaire de l'agence et vous êtes arrivé hier de Singapour.
Oui, j'ai pris un peu d'avance.
Orion Chatière-Guiros, 17 ans, élève au lycée franco-hellénique d'Athènes. Bonjour Orion.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes en première L à Athènes.
Exactement.
Et de parents grecs.
Exactement.
Et ils vous ont mis dans un lycée français. Vous nous expliquerez pourquoi.
Oui, bien sûr.
Vincent Siandra, 28 ans, ancien élève des lycées français de Kuala Lumpur et Bogota. Bonjour Vincent Siandra.
Bonjour.
Alors vous êtes sorti il y a près de 10 ans. Vous avez fait votre chemin. Vous nous direz un peu ce qui reste de votre vie dans les lycées français de l'étranger. Et puis, quant à vous, vos questions et vos réactions, les voisins et les voisines, vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages publiés sur les réseaux sociaux. Jolie qui est à Monrovia, au Liberia, qui résume d'ailleurs à peu près tous les messages que nous avons reçus. Le niveau d'éducation, nous dit Jolie, est excellent, mais les prix ne sont pas à la portée de 99% de mes compatriotes. Je me demande pourquoi est-ce que l'éducation en Europe est quasi gratuite, mais une fois en Afrique, c'est juste ouf. 5 000 $ pour les petits, crèches et maternelles, 10 000 $ pour les grands, plus tous les autres petits frais, ajoute Jolie, les activités sportives comme la natation, le taekwondo, le foot, malgré tout. Pour les parents qui souhaitent une meilleure éducation pour leurs enfants, il n'y a pas meilleur que le lycée français. Voilà, ça c'est signé donc apparemment, je pense, d'un ancien élève ou d'un parent plutôt, qui était au Liberia. Aliou à Dakar nous dit, au Sénégal, ces lycées ont la réputation d'être les meilleurs pour travailler en groupe. Les élèves sont meilleurs en expression orale et en français. Dans nos lycées au Sénégal, on parle généralement le Wolof, mais on y trouve aussi de très bons élèves. Je précise que le bac sénégalais a la réputation d'être plus difficile que les épreuves du bac français. Vous confirmez Noël Delhomme, même si vous êtes en poste à Abidjan.
Enfin, je confirme pour le bac ivoirien.
Rajemisa Antananarive à Madagascar. Les élèves du lycée français sont plutôt avancés sur le matériel, sur le plan matériel, technologie, informatique, etc. Mais ils sont moins bons que les élèves des congrégations catholiques, jésuites ou autres. Bah, ça compare sec, hein, en tout cas, aujourd'hui, dans les familles. Bienvenue dans le monde de la compétitivité scolaire. Vos appels au 33 1 84 22 71 71. Noël Delhomme, Bernard Pujol, à quoi ressemble la vie d'un proviseur quand on dirige un établissement déjà de plusieurs milliers d'élèves et à des milliers de kilomètres de chez soi, Bernard Pujol?
À peu près la même vie que celle d'un proviseur en France, hein. C'est-à-dire on est quand même dans le même contexte, mais avec une problématique un peu différente. Problématique différente parce que d'abord on travaille de la maternelle à la terminale. Ça c'est quand même quelque chose de très nouveau pour nous les chefs d'établissement. En France, nous n'avons que le collège et lycée généralement, et là tout d'un coup, on a un parcours complet, et puis un public quand même un peu différent, un peu beaucoup. Et des activités qui sont quand même un peu plus engagées, un peu plus développées que dans nos établissements français, enfin de la métropole. Donc c'est un
de
quotidien.
De la métropole, comme vous dites.
Voilà, on est assez loin, nous. Et donc c'est un quotidien à peu près identique, mais bon là c'est une richesse pour nous. Ce qui est très bien quand on est chef d'établissement, je ne sais pas si tu confirmeras, mais c'est que surtout quand on se lève le matin, on ne sait pas très bien de quoi sera faite notre journée, mais on est sûr qu'elle sera riche et qu'elle sera très intéressante. Voilà.
Noël Delhomme, vous confirmez à Abidjan?
Oui, une fois qu'on a franchi les portes du lycée, évidemment, on est dans une situation qui est très proche de ce qu'on peut connaître en France. à la différence en effet qu'on a le cursus complet, y compris éventuellement au-delà du baccalauréat, parce que à la rentrée prochaine, nous ouvrirons une classe préparatoire intégrée à l'INP de Grenoble. La différence réside aussi dans le public et je dirais dans le regard que portent les parents sur l'éducation, puisque en fait nous scolarisons 60% en fait d'élèves ivoiriens, dont une bonne partie sont binationaux français, et que dans ce type de pays, en voie de développement rapide, l'éducation est extrêmement extrêmement importante. Et effectivement, ça projette sur les enfants un souci de réussir. Et notre grande fierté, c'est effectivement d'aller vers l'excellence pour tous.
D'Abidjan à Singapour, des attentes très fortes de la part des familles.
Donc. Voilà.
Vous représentez aussi un peu la France quand même dans le pays où vous vivez respectivement tous les deux, non?
Ah oui, je pense que c'est aussi une des missions fondamentales de ce réseau. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que les lycées français à l'étranger font partie du réseau d'influence de la politique étrangère française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, dans un établissement scolaire à l'étranger, on est au plus près du poste diplomatique, on mène des actions en partenariat avec les alliances françaises, on travaille avec, bien sûr, le pays d'accueil, parce que c'est très important, et donc on fait partie de cette influence française. Donc je pense que c'est un outil important du ministère des Affaires étrangères, au-delà du réseau.
Orion Chassar-Guiros, la vie d'un lycéen grec au lycée français d'Athènes, ça ressemble à quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes comme tous les autres lycéens à Athènes ou pas forcément ?
À Athènes, non. Je dirais à peu près comme les lycéens en France. Enfin, c'est pas du tout comme les lycéens à Athènes. C'est un programme plus chargé en général. Enfin, plus chargé à l'école, justement, avec... On se réveille plus tôt, on finit les cours plus tard. On a les vacances à la fois grecques et françaises.
Ah ben ça c'est pas mal.
C'est pas mal en effet. C'est oui, en fait, on a les deux fêtes. Ouais.
Alors on vous entend parler, Orion, vous n'avez pas l'ombre d'un accent. Vous parlez français comme un français, mais vos deux parents sont bien grecs. Maison, on parle quelle langue ?
Le grec.
Exclusivement ?
Oui, presque exclusivement.
Pourquoi vos parents ont décidé de vous mettre au lycée français d'Athènes ?
Ça a été une décision de ma mère, qui a fait ses études en France, et puis elle est revenue en Grèce. Elle travaille au lycée où elle m'a inscrit, justement, en tant que prof de français. Et c'est justement une des raisons, on a une assez grande réduction.
Mais c'est aussi... c'est ce que j'allais vous poser comme question.
Mais c'est aussi parce que, enfin, d'après elle et d'après moi aussi, c'est un système éducatif beaucoup plus... beaucoup meilleur, en tout cas, que le système éducatif grec en ce moment.
À quoi vous pensez quand vous dites ça ?
Les méthodes d'apprentissage, les cours, enfin, à peu près tout est fait de manière à développer, en tout cas, je dirais, un esprit critique beaucoup plus important que dans les écoles grecques, si vous comparez.
Donc. Un esprit critique, donc. Vincent Suandra, vous qui êtes ancien élève, les souvenirs peut-être qui vous différencient d'un lycéen éduqué en France, par rapport à ce que disait Orion, vous qui avez grandi alors à Bogota, Kuala Lumpur, en Malaisie.
Exactement.
Hein, et en Colombie.
Et en Colombie, exactement. Alors, ce qui est intéressant dans mon cas, en tout cas, c'est que j'ai fait des allers-retours. C'est-à-dire que j'ai fait une partie à Kuala Lumpur. Juste après, je suis revenu en France. Et puis, par la suite, je suis allé en Colombie. Donc, j'ai eu la possibilité de voir un petit peu les trois. Bon, ce qui était important pour mes parents et à ce moment-là, c'était déjà la continuité. Du programme.
Nos deux parents sont français.
Nos deux parents sont français, effectivement. La continuité du programme, la capacité de pouvoir trouver un lycée français, ça c'est assez impressionnant, un petit peu de partout, même dans des endroits assez improbables, en Colombie ou autre, il y a des petits lycées français en Colombie, donc c'est assez incroyable cette possibilité-là. Et de l'autre côté, moi ce qui m'a intéressé, parce que mes parents m'ont toujours laissé le choix entre un lycée ou une école locale ou internationale. internationale ou autre avec le lycée français. Moi, j'ai fait ce choix-là. Mon frère et ma sœur ont fait d'autres choix.
Ah oui. Donc, et ils sont complètement différents de vous ou pas d'ailleurs, du coup?
Non, ils sont pas si différents que moi. Ils ont pris des voies différentes, mais ils sont pas du tout différents. Juste, ce qui était intéressant à un moment donné, c'est la capacité de mettre l'élève face à un choix, tu changeais de méthode ou tu restais sur un lycée français classique avec bon, ce que l'on connaît.
Mais ça veut dire quoi, changer de méthode là, concrètement? À quoi vous pensez, à quoi vous faites allusion
concrètement?
Quelle serait là une anecdote qui fait que ça définit l'éducation à la française dans un lycée français de l'étranger par rapport à vos frères et sœurs qui sont allés dans des établissements plus locaux?
Alors par exemple, ma sœur qui a fait un lycée plutôt américain à Kuala Lumpur, c'était un lycée qui était beaucoup plus axé sur le travail en groupe, sur du projet. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve après en école d'ingénieur, par exemple en France, où là on va avoir une assimilation par le projet, un travail en groupe très très fort, alors que c'est un petit peu plus individualiste, on va dire, dans le modèle classique français. Je ne veux vexer personne autour de la table, mais
dans les lycées français, on apprend la dissertation, c'est ça?
Oui, entre autres.
Et bon, on va en reparler. On va parler de cette excellence à la française dans les lycées français de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis de la concurrence aussi à laquelle vous devez faire face, que ce soit d'ailleurs à Abidjan, je pense notamment avec l'arrivée de la BAD, des cadres qui arrivent s'installer à Abidjan de la Banque africaine de développement et qui peut-être ont d'autres attentes, d'écoles plus anglophones, plus anglo-saxonnes, ou à Singapour, où là vous êtes vraiment en plein territoire anglophone, hein, globalement. Bernard Pujol, on va y revenir dans quelques instants. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Pat Modi cherche rime subtile, mélancolie cherche cœur fragile. Origami cherche mains habiles, mais comment faire la part? Tapatoudi cherche fin du film, Tutti Frutti cherche vitamine, Petit Mougli cherche liane solide pour s'envoyer en l'air. De l'autre côté, il y a sans doute quelqu'un. Ce je ne sais qui, ce je ne sais quoi, ce je ne sais rien. Petit à petit, pas à pas, je tisse les liens. Nos vies sont des puzzles chinois pour avoir le cas. Gorge-nous et cherche car fleuri. Baiser volé cherche narcerie. Timidité cherche grande folie pour chanter la misère. Fakalame cherche confetti. Pokimane cherche dame Wogi. Gamin blessé cherche maladie pour sonder le mystère. De l'autre côté, il y a sans doute quelqu'un. Ce je ne sais qui, ce je ne sais quoi, ce je ne sais rien. Petit à petit, pas à pas, je tisse les liens. Nos vies sont des puzzles chinois, à l'Alexandrin.
C'est là, puzzle, chez 7 milliards de voisins, nous parlons des lycées français de l'étranger. Et pour ceux qui veulent nous poser des questions, on a deux proviseurs, profitez-en, Singapour, Abidjan, un ancien élève et un lycéen à Athènes. Alors c'est vraiment une opportunité pour vous renseigner sur les lycées français de l'étranger, 33 1 84 22 71 71. Nous évoquions l'excellence scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire dans un lycée français de l'étranger? Est-ce que c'est plus difficile d'ailleurs dans une ville où il y a une très forte concurrence, notamment anglo saxonne comme à Singapour, Bernard Pujol?
Oui, c'est certainement difficile, mais je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, on est sur des modèles éducatifs qui sont pas tout à fait identiques. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun défend un petit peu son modèle auquel il croit, avec une prégnance des parents quand même très importante, notamment sur la maîtrise de la langue anglaise. Voilà, ouais. Sur Singapour, ça, c'est un domaine
incontournable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'anglais, il y a du bilingue, en fait, chez
alors,
vous.
On travaille sur de la parité horaire, avec des classes où les enfants ont la moitié du programme qui se fait en français, l'autre moitié en anglais. Et puis, on a des parcours maintenant identifiés, notamment avec des sections internationale britannique qui débouche sur une option britannique du baccalauréat français. Donc là, il y a tout un parcours, tout un travail qui est fait de la maternelle à la terminale. Et c'est vrai que pour des enfants qui ont tendance de plus en plus à rester chez nous, parce que ça aussi, ça change dans nos lycées français.
Quand vous dites chez nous, c'est-à-dire?
Là, je pensais à Singapour. C'est-à-dire que on a eu un temps où ces lycées français, comme ça a été dit tout à l'heure, les parents venaient en expatriation, restaient sur une période assez courte, et ce réseau qui permet aux gens de voyager permettait une continuité de la scolarité. Aujourd'hui, les familles s'installent davantage, du moins c'est ce que l'on a en Asie.
Donc des familles, ce sont des familles françaises essentiellement, sûr, votre clientèle, vous, c'est essentiellement des Français.
Absolument, nous n'avons pas la possibilité de scolariser des Singapouriens.
Ah oui, dites-nous pourquoi.
C'est un texte de loi qui interdit pour l'instant.
Singapouriens.
Absolument, ils veulent garder leurs élites ou leurs élèves chez eux.
Intéressant.
Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de scolariser ces enfants-là.
Donc un enfant singapourien qui n'a pas de passeport français, qui n'est pas biculturel, ne peut pas s'inscrire au lycée français parce que le gouvernement singapourien ne l'autorise pas.
Exactement. Seuls peuvent s'inscrire ceux qui ont quitté Singapour, qui ont été dans des écoles à l'étranger. Quand ils reviennent chez nous, ceux-là peuvent avoir une dérogation du ministère de l'Éducation singapourienne et peuvent intégrer notre école. On en a très peu.
De plus en plus d'anglais dans les lycées français de l'étranger, c'est inéluctable pour faire face à la concurrence, Noël Delhomme.
Oui, indépendamment même du problème de l'éventuelle concurrence, c'est absolument indispensable pour travailler aujourd'hui, de maîtriser l'anglais. Donc nous avons fait le choix à la réouverture de l'école, donc en 2010, comme...
Après la crise post-électorale?
Non, la précédente crise, la crise de 2004, où le lycée et l'école avaient été partiellement détruits, donc ont été fermés pendant 4 ans pour le lycée, 6 ans pour l'école.
Vous n'avez fermé que quelques semaines.
Oui, en 2010, on n'a pratiquement pas fermé du tout, d'ailleurs. Donc l'école a réouvert en septembre 2010, et on a fait le choix à ce moment-là d'offrir un programme, un dispositif bilingue à 50 à parité horaire, 50-50, où donc le programme français est enseigné partiellement en français, partiellement en anglais, pour l'ensemble des niveaux de la maternelle. Donc on a ouvert les 3 niveaux à la rentrée de 2010, et maintenant on atteint à la rentrée prochaine la classe de CM2. Actuellement on est donc en CM1. Avec donc un enseignement à parité horaire, et donc évidemment des enfants qui ont atteint un excellent niveau d'anglais, et parfois un excellent niveau de français, puisqu'on y scolarise aussi des enfants anglophones. Ça a d'ailleurs beaucoup facilité l'intégration des enfants de là-bas, dans les petites classes, puisque...
De la Banque africaine de développement, voilà, puisque, qui se réinstalle.
Qui sont revenus à la rentrée de cette année, d'ailleurs.
Au lycée français d'Athènes, il y a aussi beaucoup d'anglais, comme ce que viennent de dire les proviseurs de Singapour et d'Abidjan.
Anglais, non pas beaucoup, mais on a des élèves qui, on a une section britannique au lycée, et donc c'est une option que les élèves peuvent choisir dès le collège, je pense, ou même dès le primaire. Bon, ouais. En tout cas, elle met dans le programme des heures de littérature anglaise, d'histoire anglaise.
C'est pas votre cas, vous, Orion.
Non, c'est pas mon cas.
Parce que vous êtes déjà en permanence sur du bilinguisme, sur le grec à la maison, les deux voir en français.
Oui, en effet.
Et pour vous, Vincent Ciandra, quand vous étiez à Bogota à l'époque, puisque vous avez quitté maintenant les lycées français il y a une dizaine d'années, c'était déjà avec beaucoup d'anglais?
Alors, on va dire que la présence de l'anglais en Amérique latine en général, mais surtout en Colombie, au nord de l'Amérique latine, de par un petit peu les échanges avec les États-Unis, est quand même assez présent, en tout cas au niveau de l'élite colombienne. Donc souvent, il y a un niveau d'anglais qui est assez bon, généralement. Donc je dirais que je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de cours d'anglais que dans un lycée classique. Par contre, au niveau de l'espagnol, il est vrai qu'en Colombie, à la fin, on passe le bac français classique et le bac colombien qui s'appelle ICFES. Donc le niveau et la suite en espagnol doit être assez importante.
Bernard Pujol, on parlait de la pression scolaire, de l'excellence à Singapour. Alors on est sur un territoire, Singapour en plus est extrêmement bien noté dans les comparaisons internationales, c'est vraiment l'excellence scolaire à tous les niveaux d'un système éducatif singapourien. Du coup, ça se traduit comment chez vous au lycée français de l'étranger de Singapour?
Cette pression, en fait, si vous parlez de la pression, elle existe vraiment. C'est-à-dire que on a Singapour est un pays où dans l'éducation on est en concurrence constante. C'est-à-dire que les élèves veulent toujours en faire plus, veulent toujours être les meilleurs, et on retrouve un peu ça chez nos élèves et chez nos parents d'élèves. Donc
même si ce sont des parents français,
absolument,
l'environnement culturel déteint
un petit peu, bien sûr, avec ce besoin d'avoir toujours plus. Et alors donc, comme dans beaucoup de lycées, on a des journées très longues. Les élèves commencent très tôt le matin, finissent tard le soir avec des multitudes d'activités.
Hein, donc une journée d'un élève moyen au lycée français de Singapour, alors, il arrive à quelle heure?
S'il fait du sport de haut niveau, puisqu'on a des sections de haut niveau, il peut commencer par du sport le matin à 6h30, et puis il termine sa journée aux alentours de 18h30,
d'accord, 19h. 12 heures dans le lycée français de Singapour. Près, ouais. On va y revenir, bien sûr, pour faire quoi? Vous restez avec nous tous les 4, suite de l'émission juste après le flash, dans 3 minutes maintenant sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous parlons des lycées français de l'étranger aujourd'hui à l'occasion des 25 ans de l'Agence française de l'enseignement à l'étranger. Donc de nombreux proviseurs, anciens élèves, lycéens sont venus pour cet anniversaire à Paris. Et d'ailleurs, je crois que Laurent Fabius va recevoir les lycéens et les anciens lycéens des lycées français de l'étranger aujourd'hui à Paris. Nous en discutons avec vous autour de la table. Noël Delhomme, proviseur du lycée français Blaise Pascal d'Abidjan. D'ailleurs, c'est votre dernier poste. Vous prenez votre retraite dans quelques mois. Vous avez là, en même temps, assez nostalgique. On en parlera, on en dira un mot. Et Bernard Pujol, proviseur du lycée français de Singapour. Orion Chatsiar-Guiros, élève au lycée franco-hellénique d'Athènes. Deux parents grecs et vous qui parlez parfaitement bien le français, sans accent. Vincent Siandra, ancien élève des lycées français de Kuala Lumpur et Bogota. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise à 28 ans. Vous avez monté votre boîte.
Exactement.
Une entreprise dans l'environnement, c'est ça, dans le domaine
En fait, Metron, c'est une société de services énergétiques. On aide les industriels à diminuer leurs factures d'énergie. Donc c'est un petit peu aussi dans l'air du temps et ça nous permet avec des super technologies innovantes de créer de la valeur ajoutée à ce niveau-là.
Et qu'est-ce que vous avez gardé comme lien avec le lycée français de Bogota, je crois ?
Un associé.
Ah c'est ça, vous avez trouvé votre associé au lycée
Exactement.
Français.
Donc c'est
un
pareil.
Colombien, quand même. Un français.
Un franco-colombien.
D'accord.
Donc voilà, la personne... La première personne que j'ai rencontrée au lycée français de Bogota, la première personne qui m'a parlé. Aujourd'hui, on est associés.
C'est devenu votre meilleur ami et votre associé.
Exactement. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvés à Paris et puis on a décidé de monter cette entreprise ensemble.
Alors, on parlait de l'excellence. Bernard Pujol nous décrivait la très longue journée des petits Français du lycée français de Singapour, puisque chez vous, puisque chaque clientèle est différente hein, en fonction des lycées, des pays dans lesquels ils sont hébergés. Mais chez vous, ce sont essentiellement des familles françaises, mais alors qu'ils vivent, on dirait, à la sud-coréenne, je dirais. 6h30 du matin jusqu'à 18h30, on reste dans le lycée. Oui. Tellement on y est bien ou...
Ben, je pense que oui, on y est bien. Puis comme vous l'avez dit à un moment donné, c'est un peu un cocon dans lequel on se retrouve et on fait plein d'activités. Mais ces richesses de lycée, c'est la multiplicité des activités, c'est des modèles quand même assez enrichissants. Je pense au modèle des Nations Unies sur lequel nous travaillons énormément sur Singapour, qui existe aussi dans d'autres établissements, bien sûr, avec Ambassadeur en Herbe, par exemple, qui est un petit peu la même histoire.
Ah oui, vous avez recréé...
C'est Singapour et Porteur. On recrée modèle des Nations Unies. Les élèves se retrouvent. On accueille tous les lycées singapouriens. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ça avec eux. Et puis, on a la chance, par exemple, de participer au grand modèle qui se passe à La Haye, où on va chaque année le lycée représenter. Donc ça fait partie des éléments forts d'une journée chez nous. Et puis, il y a énormément aussi de projets, d'activités. Quand je suis arrivé à Singapour, on m'avait dit attention, vous allez voir, c'est un établissement où il y a un projet par jour. Et je vous jure, on m'a menti, il y a des jours où il y en a deux.
Vous arrivez à suivre.
Non, mais j'ai une équipe, donc un proviseur, c'est aussi la capacité à essayer de s'entourer. Et donc, j'ai une équipe autour de moi qui fait un travail remarquable. Et donc, des enseignants engagés, des élèves brillants, on en a l'exemple ici. Donc, c'est un métier passionnant.
Vous étiez en poste avant à Buenos Aires et encore avant dans le nord de la France, près d'Arras.
Exactement.
Trois vies différentes.
Avec mon accent, c'est facile. J'étais dans le nord de la France, j'étais à Arras. Et trois vies, ouais, trois vies et trois belles vies.
Noël Delhomme, l'excellence scolaire à Abidjan, au lycée français d'Abidjan, comment ça se traduit pour vous ?
Alors, on n'est pas dans un cadre compétitif comme on peut l'être à Singapour. On se crée notre propre compétition. Pour nous, l'excellence, c'est effectivement de sortir tous les élèves, de les mettre au niveau et, si possible, de sortir du lycée avec un bac et une bonne mention. Donc, en fait, on multiplie les dispositifs d'accompagnement, d'aide, de soutien pour les élèves qui ont des difficultés dans certaines disciplines. Et d'autre part, on multiplie les dispositifs d'encouragement, de promotion et pour donc tous les élèves qui n'ont aucune difficulté scolaire, mais pour les mettre dans encore de meilleures conditions pour réussir les différents concours, par exemple d'entrer dans les grandes écoles, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ou dans quelle que soit la voie qu'ils aient choisie. Donc,
vous êtes très bien dotés en termes d'enseignants, hein, puisque vous avez 50% des enseignants qui sont titulaires de l'éducation nationale. C'est beaucoup, c'est pas le cas dans tous les lycées français de l'étranger. Et puis, vous avez un tiers d'agrégés de maths, ce qui est juste énorme.
Il se trouve que nous sommes un établissement partenaire de l'agence, donc totalement autofinancé, ce qui nous permet effectivement d'avoir un petit peu de souplesse en termes de recrutement.
Oui,
souplesse, mais parlons aussi de ce qui fait mal, les tarifs. C'est souligné par la plupart de nos voisins qui nous écoutent sur le continent subsaharien. Les tarifs à Abidjan, 3 000 € l'année en primaire, 6 000 au lycée.
Oui, en primaire, donc on est à 2 816 €. Et au lycée,
là on parle des Français et des Ivoiriens qui ont le même tarif.
Des Ivoiriens, voilà.
Et au lycée, si on est Ghanéen, c'est double
peine. Si on est Ghanéen, c'est pas tout à fait tout de même, mais c'est un peu plus cher pour des raisons qui sont simples. C'est que et le gouvernement ivoirien et le gouvernement français participent finalement au fonctionnement de l'établissement, chacun à sa manière. Et en revanche, le gouvernement ghanéen, à ma connaissance, ne nous aide pas encore. donc il n'y a pas le retour. Maintenant, je voudrais peut-être profiter de cette question pour revenir sur ce qu'a dit votre auditeur libérien du départ. Nous n'avons pas vocation à nous substituer au système éducatif local. Et au contraire, nous l'encourageons, ce système éducatif local, par des actions de coopération, des actions de formation continue commune. On en a une qui commence la semaine prochaine pour les professeurs d'histoire-géographie. Ça rentre dans le cadre de nos missions, adaptation des programmes au contexte dans lequel se trouve l'établissement. Et en même temps, c'est une action de coopération éducative, en ce sens que cette action de formation, c'est un séminaire qui va être animé par des universitaires français et ivoiriens. Ce séminaire, il est destiné aux professeurs d'histoire-géographie du second degré des écoles des lycées ivoiriens. Chaque année, on a 13-14 lycées qui sont représentés. Ça, c'est un exemple. D'autre part, on mène des tas d'actions beaucoup plus concrètes avec des lycées ivoiriens pour, justement, y compris sur nos méthodes de travail, etc. Parce que, en fait, on ne peut pas imaginer qu'on va scolariser tous les Ivoiriens. Même si on était gratuit, ça ne pourrait pas. Mais même si on était gratuit, ça ne pourrait pas exister.
Ouais. Vous avez plus de 2000 élèves, hein, voilà. Singapour,
on a 2300.
Oui. Les tarifs à Singapour, là, on est plutôt à 10 000 € l'année en moyenne.
Oui, si on calcule sur une moyenne, on est à 10 000 €.
C'est-à-dire que, du coup, quoi, vous calculez les tarifs par rapport au pouvoir d'achat des familles qui sont à Singapour ou pas?
Non, parce que là, on pourrait peut-être les avoir encore plus élevés. Donc, non, on n'est pas dans ce calcul-là. On est dans un calcul. Nous, on est un établissement conventionné. On a un comité de gestion qui gère l'établissement. Les frais de scolarité paraissent élevés, mais si on regarde un peu dans ce qui se propose à Singapour, on est le plus bas des établissements en termes de tarifs des établissements internationaux. Donc,
ça, c'est le cas partout dans le monde. Les lycées français et l'étranger sont en général moins chers que les écoles anglaises ou américaines.
On est un tiers de l'école américaine.
Voilà, nous aussi, on est vraiment plus bas. Mais l'important pour nous, c'est que ce tarif-là correspond vraiment à une prestation qui soit à la hauteur du tarif qui est engagé par rapport à ce qu'on a sur le pays d'accueil.
Néanmoins, à Abidjan, par exemple, il y a des établissements qui sont homologués également, comme vous, de la Fosse, Lamartine, qui sont nettement moins chers.
Oui, qui sont nettement moins chers, qui n'ont pas le même corps enseignant que nous. On est à prix coûtant, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, si on fait un budget comme une entreprise, c'est-à-dire on sait de quoi on a besoin pour payer les personnels, pour payer les factures diverses et variées, de l'électricité à la tombe des pelouses.
Oui, je veux que vous ayez la prise au courant des factures.
Et après, on divise par le nombre d'élèves. Il faut faire quand même une provision pour les retraites, faire une provision pour les constructions.
Est-ce que ça veut dire que du coup, l'un et l'autre, parfois, vous avez le sentiment d'être un peu au bout du modèle? L'État ne veut plus continuer à investir plus, alors qu'il y aurait une demande. Vous pourriez avoir plus d'élèves, je pense. Et en même temps, vous êtes un peu tenu, vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment les frais de scolarité.
Non, il y a une vraie réflexion, mais je pense que c'est partout pareil, une vraie réflexion pour une maîtrise des coûts. Parce qu'on s'en rend bien compte aussi que cette augmentation qui serait inconsidérée ferait à un moment donné qu'on arriverait au bout du système. Donc on essaie de maîtriser tous nos coûts, on essaie aussi d'avoir une réflexion globale, mais comme elle vient de dire ma collègue, c'est peut-être ça en quoi différencie le métier d'un chef d'établissement en France et à l'étranger, c'est qu'on devient un petit peu des petits chefs d'entreprise dans lesquels on a toute la partie comptable et budgétaire à gérer et on essaie de le faire, je dirais presque un bon père de famille pour essayer de prendre en compte la réalité des familles qui viennent chez nous. Donc ça, c'est une vraie réflexion qui nous incombe chacun.
Pour les élèves excellents et dont les familles ne peuvent pas supporter le prix de cette scolarité, y a-t-il des bourses et combien en pourcentage?
Alors, il y a des bourses non seulement pour les élèves excellents, mais il y a des bourses exactement comme en France, pour certaines, par exemple en France, on peut être subventionné pour payer la cantine ou pour payer les frais d'entrer à l'école. Bon, nous, on a la possibilité pour les familles françaises, sur condition de ressources, d'avoir des bourses. Dans mon établissement, on a 288 boursiers.
Donc, ça fait combien en pourcentage par rapport à...
Eh ben, c'est-à-dire qu'il faut déjà prendre le pourcentage des Français, pas l'ensemble des élèves. Donc,
parce que les bourses ne s'adressent qu'aux passeports français.
Là, ce sont les bourses qui sont servies par l'État français. Mmh. Donc, évidemment, elles s'adressent aux élèves français. Qu'ils soient mono, si ça existe, ou binationaux, mais aux élèves français. 95% de ces boursiers sont boursiers à plus de 50% et précisément 40% sont boursiers à 100%. Mmh. C'est-à-dire que les frais de scolarité sont totalement pris en charge parfois et à 100% en général. Alors, la cantine
on est loin et des années Sarkozy, hein, où il y a eu à une époque la gratuité totale pour certaines classes. La réforme n'est jamais allée complètement au bout pour les familles françaises. Le raisonnement était à l'époque de dire ces familles françaises en France bénéficieraient d'une école gratuite, elles doivent en bénéficier à Abidjan comme à Singapour. Ça n'a plus cours.
En France, ces familles auraient payé leurs impôts en France et elles auraient bénéficié d'une école gratuite en contrepartie. À l'étranger, ce n'est pas toujours le cas.
Ça fait partir des familles ou pas?
Non.
Bernard Pujol?
Non, pas du tout. Nous, on n'a pas cette problématique des bourses, puisque je crois qu'on a 56 boursiers sur les 2600 élèves.
Donc, l'ouverture sociale est vraiment réduite.
Elle est réduite, oui peut-être, mais elle correspond à la population qui est actuellement sur Singapour.
C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que des familles de cadres sup avec des très hauts salaires à Singapour.
Tout à fait, mais il y a les entreprises qui prennent en charge beaucoup des frais de scolarité parce que ça fait partie du contrat qu'obtiennent les personnes qui viennent travailler chez nous. Donc c'est pas forcément les familles elles-mêmes qui payent, c'est l'entreprise qui participe. Et dans ces entreprises-là, on a tout. Il n'y a pas que des cadres, il y a des gens qui viennent travailler, mais ils ont cette chance de pouvoir poursuivre leur scolarité dans l'étranger et d'avoir une aide par l'entreprise pour la scolarité de leurs enfants. Donc on a un public quand même très hétérogène, très diversifié.
Est-ce que le problème des tarifs, c'est un sujet dont on parle entre lycéens, Orion? Vous nous avez dit dès le début de l'émission que vous êtes là, vous avez la chance d'être au lycée français de l'étranger parce que votre mère y est enseignante et donc elle bénéficie de tarifs privilégiés. C'est un sujet de conversation parmi vous où finalement, l'essentiel de vos camarades sont financièrement privilégiés par les salaires de leurs parents?
Oui, c'est pas vraiment un sujet de conversation. C'est vrai que
vous avez l'honnêteté de le reconnaître.
Non, c'est vrai que chez nous, c'est vrai, la plupart de mes camarades viennent de familles qu'on pourrait appeler aisées, privilégiées. En tout cas, ils peuvent soit bénéficier d'une bourse parce qu'ils ont justement le passeport français, ou ils en ont même pas besoin. Bon, en général, mais quand même, il y a une petite partie des lycéens qui ne proviennent pas d'une couche sociale, on pourrait dire, si élevée, mais qui parviennent à être scolarisés à l'école.
Vous venez d'un pays qui est l'un des pays les plus durement touchés par la crise depuis 2008. Est-ce que dans votre lycée, on est dans une bulle? C'est le lycée français d'Athènes. C'est donc un petit territoire de la France. Ou est-ce que vous êtes perméable à tout ce qui se passe autour de vous, en salle de classe, dans la façon d'être enseigné, d'étudier vous-même?
C'est intéressant parce que on a un peu des deux. On a des élèves qui sont justement un peu enfermés dans leur bulle, mais comme il s'agit pas d'un lycée français seulement, on a aussi une partie de lycée grec qui est un lycée privé pour les Grecs. Quand même, on a une sorte de mixité, on pourrait dire, et donc ce n'est pas justement une sorte de cocon à proprement parler.
Ça veut dire que vous pouvez être amené à parler de la crise chez vous, à parler des gens qui n'ont plus aucun accès au système de santé, par exemple, et qui vivent des drames absolus dans votre ville à Athènes.
Bien sûr, et je pourrais même vous dire qu'il y a des élèves qui sont qui peuvent en témoigner directement. Donc c'est un sujet de conversation, ça c'est sûr.
Sur l'environnement, alors évidemment à Singapour vous êtes dans un environnement relativement privilégié, mais je m'adresse à vous Noël Delhomme. Vous en plus vous avez été en poste avant à Beyrouth, vous avez vécu la guerre entre Israël et le Liban à l'été 2006, vous avez vécu une grande partie du conflit en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous appréhendez cet environnement? Là vous êtes dans un pays qu'on dit post-crise en Côte d'Ivoire.
Alors, J'étais en fait en poste à Nabatieh, auprès de la frontière israélienne au Liban. Alors, on mène auprès de nos élèves, et d'ailleurs parfois ce sont eux qui les mènent pour nous, des actions de solidarité ou des actions de sensibilisation à la solidarité. On a chaque année, par exemple, un cross solidaire qui permet une levée de fonds très importante. Et chaque année, on désigne un certain nombre de récipiendaires. Ce sont les élèves qui les amènent en général, ou les professeurs, pour lesquels on achète beaucoup d'équipements. Par exemple, citer l'INIPA, l'Institut des aveugles, qu'on a équipé en machine à taper, à imprimer en braille, par exemple.
Et pour vous, c'est important, ça, que le lycée ne soit pas déconnecté de la réalité?
C'est essentiel, essentiel. On a une association qui a été créée par les élèves de l'option art plastique qui s'appelle Cœur d'art, et qui, pareil, mène des levées de fonds très importantes, fait des animations dans des centres d'enfants des rues, des centres d'accueil des enfants des rues, dans des endroits là en ce moment. Ils ont organisé récemment une levée de fonds qui était très importante, puisqu'ils ont levé pratiquement 10 000 euros. Pour équiper un centre pour enfants handicapés.
Donc vous voulez exister également en tant que partenaire dans le pays où vous êtes, vous exercez.
Oui, absolument.
Je voudrais vous faire réagir sur le message de Meriem qui concerne exactement ce dont on est en train de parler, qui nous écrit de la Sardaigne en Italie. Meriem nous dit: j'ai eu mon bac au lycée Descartes de Rabat au Maroc en 85, très bon niveau d'enseignement mais destiné à l'élite, très loin de certaines réalités du pays. Autre chose, il y avait trois catégories d'élèves qui se côtoyaient mais ne se mélangeaient que très peu: les Français de père et de mère, les Marocains de père et de mère, et les binationaux. Dommage pour ça, malgré tout, si je pouvais, j'y inscrirais mes enfants. Qui veut réagir? Oui, Vincent Chandra,
oui,
lycée français de Bogota et Kuala Lumpur.
À Kuala Lumpur, c'était un petit peu plus simple, en Malaisie, puisque en fait, c'est exactement comme à Singapour, c'est-à-dire qu'on était un petit peu qu'entre Français. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était de rester entre Français. De l'autre côté, à Bogota, c'était un très différent, puisque quand je suis arrivé en première, j'étais l'un des seuls franco-français, donc il y avait des binationaux comme mon associé, mais après le reste était purement des Colombiens. J'ai eu cette chance de les côtoyer, de rester vraiment très très en lien avec eux. Mais c'est vrai que ça n'a pas été le cas de tous les Français qui étaient sur place. Il y a des petits conflits, des choses assez compliquées,
comme dans tous les établissements, mais c'est vrai qu'il y a cette donne supplémentaire. Pour vous, Orion, par exemple, est-ce que vous côtoyez des enfants, des lycéens, pardon, vous êtes en première littéraire, des lycéens qui sont des lycéens français, contrairement à vous qui êtes un lycéen grec?
Des lycéens français, oui. On en a, bien sûr.
Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Meriem ou pas?
Excusez-moi, j'ai un peu.
Vous êtes désarçonné par ma question, mais est-ce qu'il y a des groupes comme ça en fonction de vos origines?
Pas tellement. On peut dire que c'est pas si net. Il n'y a pas une distinction si nette, mais quand même ça peut jouer un rôle.
Noël Delhomme à Abidjan, alors non, vous avez des élèves de toutes les couleurs?
Oui, on a des élèves de toutes les couleurs et toutes les nationalités. Sincèrement, je ne crois pas. D'abord, les Ivoiriens sont très proches des Français par leur culture, par la langue qu'on partage. On a des élèves aussi qui font beaucoup d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire ou d'autres pays d'Europe et la Côte d'Ivoire. Franchement, non. Je les vois bien mélangés dans les différentes activités.
Je ne crois pas que ça existe aussi. On a beaucoup nous, des Français et des étrangers tiers qui sont en très grosse progression. On n'a pas ce sentiment-là. Ce qui génère parfois ce sentiment, ce sont le fait que des enfants, des fois, commencent très tôt et se connaissent et créent des sortes de groupes. Et donc, rentrer dans ces groupes, parfois, est compliqué. Mais c'est pas lié forcément au fait que je sois français ou que je ne le sois pas. C'est parce que j'ai grandi avec un certain nombre de jeunes et puis j'ai vécu longtemps avec eux. Et donc, accepter l'étranger, quelle que soit sa nationalité, pour rentrer dans le groupe, peut paraître difficile.
Les enseignants doivent travailler là-dessus, sur pousser à la mixité, pousser au mélange, à la rencontre.
Je crois que c'est un vrai sujet de fond de nos écoles.
C'est-à-dire
que la vie, ça va au-delà des enseignants, c'est la vie scolaire en soi. C'est-à-dire c'est cette capacité du vivre ensemble, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde soit bien dans l'établissement. C'est une responsabilité de tous, des enseignants, de la vie scolaire, de nous et des élèves.
Concernant Alors, depuis le début de l'émission, on parle de l'excellence des lycées français de l'étranger, ce que personne ne conteste, semble-t-il, y compris parmi les auditeurs. Mais vous représentez en même temps le système éducatif français, qui précisément est un modèle qui a du plomb dans l'aile, surtout si on regarde les comparaisons internationales. La France est très, très, très loin, par exemple, derrière le système éducatif singapourien. Non seulement le système français ne sait pas aider les élèves en difficulté, mais en plus, elle fabrique de moins en moins d'élèves excellents. Alors, comparé à la pédagogie anglo-saxonne, qui sait encourager, qui sait rendre optimiste les enfants, qui sait enseigner la confiance en soi, comment vous vous situez justement par rapport à ça?
Moi, je crois que les dispositifs existent du point de vue réglementaire. Après, la difficulté qu'on a, c'est de les faire vivre, parce que ce sont toujours des dispositifs qui sont extrêmement coûteux en moyens.
Mmh. Mais attendez, c'est pas une question mobilisation. D'argent. C'est aussi un problème de mentalité des enseignants, non?
Pas seulement. Je pense que
le règne de la
exemple,
note.
Nous, on a beaucoup de groupes d'accompagnement. On a en général une douzaine d'élèves dans chaque groupe, 12-15 élèves dans chaque groupe, ce qui fait qu'il y a une proximité très grande avec l'enseignant. Au repart, on crée des groupes de besoins. Par exemple, en mathématiques en troisième, et là encore, ce sont des très petits groupes. On est à 8 élèves, 10 élèves, et donc on arrive. L'enseignant là ne peut plus pratiquer une pédagogie frontale comme quand il est en face d'une classe. Et en fait, cette structure-là génère un changement aussi chez l'enseignant.
C'est
donc un changement de rapport
chez les enseignants français,
de rapport avec les élèves.
Mais je crois vraiment qu'on a une population d'enseignants quand même qui parle du fait qu'elle ait quitté aussi la France, qu'elle ait bougé, n'a pas le même regard sur l'enfant que ce qu'on a ailleurs. Et donc eux aussi ont été influencés par le pays dans lequel ils sont, par ça. Et donc ils sont plus ouverts sur l'éducation, sur le dialogue avec les élèves, par exemple, et ce qu'on voit dans plein d'établissements, ce qu'on voit aujourd'hui avec ces élèves d'Athènes qui sont là, ce qu'on voit dans d'autres établissements fait que le regard sur l'enfant il est quand même très différent.
Parce qu'on
va
pas se mentir, dans une école, dans un lycée français de l'étranger, le basketball ça compte pas exactement comme les maths.
Tout dépend des établissements. Chez nous, le rugby compte de manière très importante. Donc, si vous voulez être au lycée Singapour, il vaut mieux savoir jouer au ballon.
Vincent Ciandra.
Oui, pour moi, mon expérience au lycée français de Bogota, c'est lorsque je suis arrivé, je suis passé en gros dans un lycée plutôt bon en France, de 12-13 de moyenne à peu près 5-6 de moyenne en arrivée. C'est vrai que le choc a été quand même très violent, le niveau était très très élevé, la vitesse d'apprentissage et de compréhension et puis d'assimilation était beaucoup plus rapide que ce que j'avais eu l'habitude d'avoir, et le choc a été violent. Je me suis accroché, d'autres sont partis qui venaient un petit peu au milieu de tout ça.
Ils sont... C'est ça, on peut aussi parler de souffrance scolaire dans ces cas-là, hein, pour ceux qui n'arrivent pas.
Je ne vais pas donner une image très négative. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez ouverts sur ce système de notes, donc ils m'ont dit accroche-toi et ça se passera bien.
On voit pas des élèves quitter l'école américaine parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, ils quittent l'école américaine parce qu'ils n'arrivent pas à payer, mais c'est tout.
Oui, non, quand même aussi, pour avoir ma sœur qui a été dans un lycée américain, il y a aussi le côté, alors c'est pas le même type de notes, mais ça va être sur d'autres facteurs. Donc,
mais c'est très sélectif aussi.
On choisit des niveaux de maths, maths++ ou autre, et on peut être éliminé sur ces critères-là.
Mais je crois qu'on met des dispositifs en place pour aider les jeunes, je crois qu'il faut pas se tromper là-dessus. Un des objectifs, notre excellence, c'est aussi l'excellence pour tous. C'est pas l'excellence que pour les meilleurs. Et accompagner les élèves qui certainement en France n'auraient pas le baccalauréat général, mais qui l'obtiennent dans nos lycées français à l'étranger, parce que justement on a des structures plus petites, un encadrement qui est plus adapté, moins d'élèves en classe, donc une facilité pour l'enseignant. Ça aussi, c'est une des forces du réseau.
C'est ce que devrait être l'éducation en France si y a autant de moyens que dans vos lycées.
Je pense que le fait de travailler avec des groupes plus réduits aide forcément à la réussite des élèves. Ça, c'est une évidence. Ça date il y a longtemps. Il y a beaucoup de ministres qui ont réfléchi à ça avant nous.
Globalement, si je fais le bilan de tous les élèves qui étaient avec moi en terminale au lycée français de Bogota, tous sont à un niveau d'études qui est assez important, soit en France, soit en Colombie, dans des universités locales. Et aujourd'hui, très clairement, il y a pas grand monde sur la touche même, je dirais personne.
On peut imaginer que ça vient aussi de l'origine sociale des élèves.
Pas forcément. À Bogota, il y avait vraiment un melting pot assez important d'un point de vue social, et c'était assez intéressant de ce point de vue-là.
Noël Delhomme, vous partez à la retraite donc dans quelques mois. J'y reviens. Une partie de votre carrière à l'international donc, puisque vous étiez en poste donc au Liban, en Abatier. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué?
Oh là, il y en a un certain nombre. Évidemment, la guerre du Liban.
Vous étiez à la frontière israélienne.
Oui,
donc effectivement,
voilà.
Dans des conditions plus que...
Je suis restée donc jusqu'à début août. Donc, ça a été un petit peu difficile. Bon, ça c'était hors contexte scolaire. Moi, ce qui m'a intéressé particulièrement dans ma carrière à l'étranger, enfin dans le temps que j'ai passé à l'étranger, c'est justement la capacité d'innovation, qui est finalement, on a beaucoup plus grande souplesse que dans le système en France, enfin sur le territoire français, on a une beaucoup plus grande souplesse. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de notre dispositif bilingue. On a aussi des tas d'autres choses qu'on peut faire, par exemple autour de l'informatique, du numérique. Par exemple, moi, dans mon école primaire, toutes les classes, sauf en maternelle, sont équipées de TNI. On enseigne avec le TNI.
Vous avez davantage les cours de franche pour organiser votre établissement.
Voilà,
comme vous souhaitez.
Le projet d'établissement est beaucoup plus libre et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis, il y a l'aspect, on gère de bout en bout.
Bernard Pujol, il faudra un jour vous réadapter à un lycée en France, puisque...
Je crois pas.
Je crois pas.
Non,
certains proviseurs sont sommés de retourner en poste dans l'Hexagone.
Je reviendrai avec grand plaisir. Ce que je veux dire, quand je ne crois pas, c'est pas une adaptation. C'est-à-dire que le cœur de mon métier est le même. Il sera certainement différent.
Parce qu'il y a des proviseurs qui dépriment totalement en revenant dans l'Hexagone après avoir été en poste à l'étranger.
J'ai eu un parcours en France. J'ai été dans des lycées difficiles. Et si je rentre, je pense que je chercherai un lycée difficile, enfin entre guillemets, parce que je crois que apporter quelque chose aux élèves, ça fait partie de nos valeurs et donc c'est important.
Merci en tout cas à tous les quatre. Noël Delhomme, proviseur du lycée français, Blaise Pascal à Abidjan, Bernard Pujol, proviseur du lycée français de Singapour. Merci à vous, Vincent Siandra, d'être venu, ancien élève des lycées français de Kuala Lumpur et Bogota. Et merci à vous, Orion Chassière-Guiros, élève lycéen au lycée franco-hellénique d'Athènes. Et puis, bonne chance pour le bac français, c'est dans quelques mois. Hein. Allez, faut s'y mettre, les fiches. Merci à toute l'équipe, Eleonore Krenik, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac. Demain, je laisse ce fauteuil à Anastasie Tudiège qui présentera l'émission.